jetons un caillou dans une étendue d'eau au repos. Quand il touche la surface, des rides circulaires apparaissent, puis progressent vers la périphérie. Ce sont des ondes. Au passage de ces ondes, un bouchon s'élève et descend sans être entraîné par elles. Il figure les mouvements des particules d'eau qui vibrent de haut en bas, transversalement à la direction de l'onde. Voici le sens de propagation de l'onde. Son amplitude, sa longueur d'onde. Les vibrations représentent le mouvement de la matière, tandis que l'onde est de l'énergie qui se propage. Beaucoup d'expériences permettent d'assimiler la lumière à une onde. Nous allons adopter cette représentation. C'est sur la théorie ondulatoire de Huygens et Fresnel que nous nous appuierons pour traiter notre sujet. Projetons un faisceau lumineux sur un écran. La tache de lumière qui apparaît indique qu'une onde parvient jusqu'à lui. Plaçons dans le champ une lame aux propriétés particulières. Nous allons en préciser les effets. Tournons-la dans son plan. L'image n'est pas modifiée. Son intensité est constante. Intercalons une seconde lame identique à la première. Tournons-la dans son plan. L'intensité de la tache passe par deux maxima et deux extinctions au cours d'une rotation de 360 degrés. Lorsque nous tournons la lame, seule la direction du faisceau reste constante, D'. Aucune modification de l'onde ne peut résulter d'un phénomène affectant D'. Par contre, si l'on admet que chacune des lames particulières ne laisse passer qu'une seule vibration perpendiculaire à l'onde, la variation de l'intensité et les extinctions peuvent s'expliquer. Ainsi, lorsqu'on tourne la première lame, la vibration qu'elle transmet tourne avec elle. Elle arrive sur la seconde. Celle-ci laisse passer la composante de cette vibration sur sa direction de vibration propre, comme l'indique ce schéma, effectué dans le plan d'onde. Lorsque les deux directions de vibration coïncident, l'intensité de la tache lumineuse est maximale. Si nous tournons la lame, l'intensité décroît. Elle devient nulle lorsque les deux directions de vibration sont perpendiculaires. Les phénomènes sont identiques si nous faisons tourner la seconde lame en laissant fixe la première. Ainsi, nous voyons que l'onde lumineuse est associée à des vibrations transversales qui reprennent périodiquement une même valeur après un certain parcours. C'est la longueur d'onde. En général, les vibrations occupent toutes les directions autour du rayon. Elles sont contenues dans le plan d'onde. Une lame ne laissant passer qu'une seule de ces directions est appelée polariseur. C'est une lame particulière que nous avons étudiée. La lumière qu'elle transmet est dite polarisée rectilignement. Au moyen de filtres, on peut sélectionner une seule longueur d'onde. La lumière est alors dite monochromatique, qu'elle soit polarisée ou non. La perception des différentes couleurs est reliée à des vibrations dont les longueurs d'onde sont différentes. Lorsqu'elles sont voisines de 0,7 microns, nous voyons le rouge. Quand elles sont proches de 0,6 microns, le jaune. Aux environs de 0,4 microns, le violet. La composition de plusieurs longueurs d'onde provoque une impression colorée résultante. Si toutes les longueurs d'onde du visible sont présentes, nous obtenons le blanc. Une onde lumineuse qui se propage dans un milieu parcourt en des temps égaux des espaces égaux. Elle est associée à des rayons lumineux qui lui sont perpendiculaires. Pendant le temps très court, où l'onde passe d'un milieu à un autre, ces différentes parties ont des vitesses différentes. Sa direction se modifie. Quand elle est entièrement passée dans le second milieu, les vitesses sont à nouveau les mêmes en tous ces points. L'onde reste parallèle à la nouvelle direction. Plus généralement, les vitesses de propagation de la lumière sont inversement proportionnelles aux indices de réfraction des milieux N1 et N2. Éclairons par un faisceau lumineux une plaque métallique percée d'un trou. Sur un écran, une tache lumineuse apparaît. Plaçons devant le trou un prisme de verre. Éclairons-le, comme précédemment, par un faisceau perpendiculaire à la plaque. Une tache apparaît encore sur l'écran. Elle reste immobile si l'on tourne le prisme. Sa position permet de connaître la marche des rayons lumineux au travers du verre. Montons maintenant sur une plaque percée d'un trou un cristal de calcite. Lorsque nous l'éclairons, deux taches apparaissent. Tournons la plaque, l'une des taches tourne autour de l'autre. Ces taches correspondent à deux rayons réfractés. L'un est ici dévié, l'autre non. Il existe deux angles de réfraction distincts, donc deux indices et deux vitesses de propagation des ondes. C'est le phénomène de double réfraction. Plaçons un polariseur avant le cristal de calcite. Tournons ce polariseur autour du rayon incident. Ou, ce qui revient au même, tournons la lame de calcite. L'intensité des taches varie. Chacune d'elles s'éteint et s'éclaire alternativement. L'extinction de l'une est séparée de l'autre par une rotation de 90 degrés. Quand une tache est éteinte, l'autre est à son maximum. Elles ont un égal éclairement à 45 degrés des extinctions. Comment interpréter ceci? Nous avons montré qu'un faisceau lumineux traversant deux polariseurs s'éteint si la vibration que peut transmettre l'un d'eux est perpendiculaire à celle que peut transmettre l'autre. C'est le même phénomène qui se produit ici. Un faisceau polarisé rectilignement arrive sur la calcite. Deux ondes sont transmises. Une tache s'éteint quand la vibration incidente est perpendiculaire à celle que pourrait transmettre l'onde réfractée concernée. Puisque les taches s'éteignent à 90 degrés l'une de l'autre, les vibrations associées à chacune des ondes réfractées sont perpendiculaires entre elles. Ajoutons maintenant, après le cristal, un second polariseur. Nous l'appellerons analyseur. Sa direction de polarisation est perpendiculaire à celle du premier. Dans ce cas, polariseur et analyseur sont croisés. Tournons la calcite. Les taches s'éteignent ensemble, quatre fois par tour, après des rotations de 90 degrés. Entre ces extinctions, l'intensité des deux taches varie régulièrement, de manière identique, et passe par un maximum à 45 degrés des positions d'obscurité. Ces observations sont expliquées par l'hypothèse que nous avons faite. La vibration incidente est décomposée à l'entrée du cristal en deux vibrations polarisées à angle droit qui se propageront à des vitesses différentes. Pour simplifier, les vibrations seront désormais représentées par la trace de leur amplitude maximale. La vibration polarisée incidente donne naissance, pour une des ondes réfractées, à la vibration V1. Et pour l'autre onde réfractée, à la vibration V2. L'analyseur A ne laisse passer que les composantes de ces vibrations dirigées suivant sa propre direction de polarisation. Appelons-les V'1 et V'2. Ces composantes sont toujours égales. L'intensité des deux tâches est donc identique. Elles passent bien par un maximum lorsque les vibrations sont à 45 degrés des directions que peuvent transmettre les polariseurs. Quand les directions de polarisation sont superposées aux vibrations, il y a extinction. Ainsi, deux ondes associées à des vibrations transversales perpendiculaires entre elles se propagent dans un cristal. Il y a extinction lorsque ces vibrations coïncident avec les directions des polariseurs croisés. Remplaçons le prisme de calcite par une lame mince taillée dans le même minéral. Éclairons-la entre polariseur et analyseur croisé par un faisceau parallèle très large. Sur l'écran apparaît l'image de la lame cristalline qui tranche sur le fond noir. Tournons la lame dans son plan. Nous observons quatre extinctions par tour, à 90 degrés l'une de l'autre, et des maxima à 45 degrés des positions d'obscurité. Ces observations peuvent facilement s'interpréter. Des phénomènes analogues aux précédents se produisent, mais la lame est mince et le faisceau large. Les deux ondes, l'ordinaire, ici en bleu, et l'extraordinaire, en rouge, ne sont plus séparées à la sortie de la lame, mais elles ont entre elles une certaine différence de marche. Si les vibrations qu'elles transportent sont parallèles aux directions de polarisation du polariseur et de l'analyseur, il y a extinction. Les positions d'obscurité permettent de déduire les directions de vibration que transmet le cristal. On les appelle lignes neutres. Étudions maintenant une lame mince de topaze. Sans dispositif polarisant, elle est incolore. Entre polariseur et analyseur croisé, elle apparaît verte et s'éteint quatre fois par tour. On peut donc repérer les lignes neutres. Le vert n'est pas la couleur propre du minéral. Il est dû au phénomène de polarisation. Pour préciser ces phénomènes, introduisons, entre polariseur et analyseur croisé, une lame de gypse d'épaisseur inégale. Des teintes caractéristiques apparaissent. À chaque épaisseur correspond une couleur. Tournons la lame dans son plan. Elle s'éteint quatre fois par tour et transmet donc deux vibrations perpendiculaires entre elles. Celles-ci traversent le cristal à des vitesses différentes. Leur différence de marche dépend de ces vitesses et des épaisseurs de la lame. Chaque teinte peut donc être reliée à la différence de marche entre les deux vibrations. Pour étudier cette relation, prenons une lame de quartz taillée en biseau. Son épaisseur varie donc régulièrement. Introduisons-la entre polariseur et analyseur croisé. Les couleurs qui apparaissent sont connues sous le nom d'échelle des teintes de Newton. Les mêmes couleurs se succèdent toujours de la même manière, jaune, pourpre, vert, jaune, pourpre, vert, etc. Les teintes pourpres, particulièrement repérables, sont appelées teintes sensibles. Elles séparent deux gammes de couleurs presque identiques, que l'on dit d'ordre différent. La première teinte sensible, suivie d'un bleu intense, sépare le premier ordre du second. La deuxième teinte sensible, à laquelle succède un vert, sépare le deuxième ordre du troisième. Tournons la lame dans son plan. Nous observons quatre extinctions par tour, deux vibrations sont transmises et chaque couleur peut être reliée à une valeur de la différence de marche qui les sépare. Mais pourquoi chaque épaisseur correspond-elle à une teinte et non à une autre? Éclairons la lame de quartz par une lumière monochromatique rouge. Nous observons des lignes noires régulièrement espacées. On peut calculer que ces bandes noires apparaissent chaque fois que la différence de marche est proportionnelle à un multiple entier de la longueur d'onde du rouge, lambda R. Éclairons à présent le quartz par une lumière dont la longueur d'onde est plus courte. Les bandes noires, toujours équidistantes, se resserrent. Avec une radiation violette, elles sont encore plus serrées. Plus généralement, nous observons qu'une radiation est éteinte chaque fois que delta égale K lambda. Voici une lame cristalline qui reçoit une radiation polarisée rectilignement. La vibration qui lui est associée se décompose à l'entrée de cette lame en deux vibrations perpendiculaires entre elles. Celle-ci se propage dans la lame à des vitesses différentes. À la sortie, elle possède une différence de marche. Comme le phénomène est continu, une vibration rapide rattrape une vibration lente à l'instant où celle-ci sort de la lame. Dès lors, les deux vibrations se propagent ensemble dans l'air à des vitesses identiques. Nous allons étudier leur interaction. Voici les vibrations V1 et V2 dans le plan d'onde. Comme le montre cette projection plane, leur état vibratoire est différent. Puisqu'elles se propagent à la même vitesse, ces deux vibrations peuvent être représentées par leur résultante. L'extrémité de cette résultante décrit une ellipse. C'est donc une vibration elliptique qui est reçue par l'analyseur. Celui-ci transmet la composante située dans sa direction de polarisation, appelée ici V émergente. Une intensité lumineuse non nulle de la radiation considérée existe après l'analyseur. La différence de marche entre les deux vibrations transmises par le cristal est alors quelconque. Considérons à nouveau une vibration polarisée rectilignement. Elle arrive sur une lame cristalline et se décompose en deux vibrations qui se propagent à des vitesses différentes. Les deux vibrations qui interfèrent à la sortie de la lame peuvent être dans le même état vibratoire. La différence de marche qui existe entre la vibration rapide et la vibration lente est alors exactement égale à une ou plusieurs longueurs d'onde. Ces deux vibrations se propagent dans l'air à la même vitesse. Elles se composent pour donner une vibration résultante. Nous voyons que celle-ci est maintenant rectiligne et identique à la vibration polarisée incidente. La vibration résultante arrive sur l'analyseur qui lui est perpendiculaire. Aucune intensité lumineuse ne peut passer. Une bande noire s'observe donc quand la différence de marche est égale à un nombre entier de longueurs d'onde. Si l'analyseur est parallèle au polariseur, les bandes noires sont remplacées par l'intensité maximale. La vibration polarisée passe intégralement, alors qu'elle est arrêtée entre polariseur et analyseur croisés. Dans ce cas, puisqu'il y a extinction quand delta égale k lambda, une ou plusieurs radiations peuvent être éteintes en un même point si nous éclairons le quartz en lumière polychromatique. Les radiations présentes produisent une impression résultante colorée. Les teintes visibles sur cette lame peuvent donc être interprétées. Quand la valeur de la différence de marche est inférieure aux longueurs d'onde du domaine visible, aucune radiation n'est éteinte. Le blanc apparaît. Pour des différences de marche égales aux longueurs d'onde du visible, une seule radiation est éteinte. Les couleurs résultantes sont vives. Enfin, pour des différences de marche encore plus fortes, plusieurs longueurs d'onde sont éteintes en un même point. Les teintes qui apparaissent sont délavées. Si les longueurs d'onde absentes se répartissent sur l'ensemble du spectre, on obtient le blanc d'ordre supérieur, comme sur cette lame. Chaque couleur correspond à une valeur précise de la différence de marche qui existe entre les deux vibrations à la sortie de la lame. Cette différence de marche dépend de l'épaisseur traversée et des indices selon lesquels les ondes sont réfractées. Les teintes de polarisation peuvent donc être représentées sur un diagramme où les différences de marche delta sont en abscisse et les épaisseurs en ordonnée. Toute droite Y égale AX, passant par l'origine de ce diagramme. A pour pente, la biréfringence du minéral. Toutes les biréfringences possibles peuvent être représentées sur ce diagramme. L'observation d'une couleur permet donc, connaissant la biréfringence de la lame, d'en déduire l'épaisseur. On peut également, connaissant l'épaisseur d'une lame, en déterminer la biréfringence. Ce cristal a été réduit à l'épaisseur de 3 centièmes de millimètre, comme on le fait pour toutes les lames pétrographiques. Le diagramme de détermination amène à constater que la lame possède une biréfringence de 0,013. En pétrographie, les lames minces utilisées ont toujours cette épaisseur, 3 centièmes de millimètre. La biréfringence peut donc être déduite de l'observation des teintes de polarisation. Il nous restera à déterminer comment repérer celle-ci sur une lame donnée. Comment repérer les teintes de polarisation sur une lame cristalline? Le vert que présente cette lame épaisse de topaze est-il celui-ci, celui-là ou cet autre? Ce pourpre dans la section de gypse est-il cette teinte sensible, celle-ci ou celle-là? À quel ordre appartient une couleur? Pour répondre, nous aurons recours à une méthode qui précisera nos observations. Une lame peut être considérée comme la superposition de deux autres lames de même orientation. De même, à une lame, on peut en superposer une autre. Les directions de vibration qu'elles transmettent sont les mêmes. La première lame a introduit une différence de marche de delta 1. La seconde, une différence de marche de delta 2. Après les deux lames, la différence de marche entre les deux ondes est ici la somme delta 1 plus delta 2. Cette couleur caractérise la différence de marche existant après la première lame. Cette autre couleur, plus élevée dans l'échelle des teintes de Newton, caractérise la différence de marche entre les ondes qui ont traversé les deux lames. Au contraire du cas précédent, la vibration rapide de la première lame peut être superposée à la vibration lente de la seconde. La différence de marche introduite par l'ensemble des deux lames est alors égale à delta 1 moins delta 2. Ainsi, la couleur que présente la première lame est remplacée, après introduction d'une seconde lame, par une teinte moins élevée dans l'échelle de Newton. La différence de marche totale a diminué, comme l'a montré le schéma précédent. Lorsque la seconde lame compense exactement la différence de marche introduite par la première, la couleur initiale est remplacée par une frange noire. Si la vibration rapide de la seconde lame a dépassé l'autre, on observe, après l'analyseur, une couleur qui peut appartenir à toute l'échelle des teintes. Pour préciser les couleurs observées dans une lame, nous utiliserons ces méthodes d'augmentation ou de diminution des différences de marche. Sur cette figure obtenue en clivant une lame de gypse, nous pouvons repérer les directions de vibration en amenant l'extinction. À 45 degrés de celle-ci, nous sommes à l'éclairement maximum. Nous voyons la première teinte sensible suivie du bleu caractéristique dans chacune des deux antennes et sur le dessin des ailes. En d'autres endroits apparaît la deuxième teinte sensible. Le vert des ailes et du milieu des antennes appartient donc au troisième ordre. Il correspond à l'épaisseur maximum. Superposons à cette lame une autre lame cristalline parfaitement connue. Ses lignes neutres, la valeur de la différence de marche qu'elle introduit, sa direction de vibration lente ont été déterminées. Nous appellerons cette lame auxiliaire. En général, nous disposons de deux lames auxiliaires. Nous allons en montrer les effets sur la partie inférieure de l'image. L'une introduit une différence de marche d'une longueur d'onde, en plus ou en moins. Elle est dite teinte sensible. L'autre introduit une différence de marche d'un quart de longueur d'onde, en plus ou en moins. Quand la teinte de polarisation de la lame étudiée est située dans le premier ordre, on peut la compenser au moyen d'une lame quart d'onde. Si les teintes initiales sont plus élevées, il faut utiliser la lame auxiliaire teinte sensible. Ainsi, sur cette lame, nous voyons la couleur pourpre. Superposons à ses lignes neutres celle NG d'une lame onde. La teinte pourpre devient plus foncée. Elle est maintenant de premier ordre puisqu'elle est suivie du bleu. Les différences de marche ont diminué d'un ordre. Superposons à cette autre gypse clivée Une lame auxiliaire, teinte sensible, dont nous repérons la direction de vibration lente, NG. Des franges noires de compensation remplacent les premières teintes sensibles. Le pourpre de premier ordre remplace celui du second. Le vert des ailes est devenu bleu. Les différences de marche ont diminué. La vibration rapide NP de la lame de gypse est superposée à la vibration lente NG de la lame auxiliaire. Tournons la lame auxiliaire face pour face. Les différences de marche augmentent. Les teintes sensibles de deuxième ordre ont remplacé celles de premier ordre. La teinte sensible de troisième ordre remplace celle de deuxième ordre. Les vibrations lentes NG des deux lames sont maintenant superposées. Tous les phénomènes que nous venons de montrer étaient observés entre polariseurs et analyseurs croisés. Si ces derniers sont parallèles, des teintes complémentaires aux précédentes apparaissent. Voici encore une lame observée entre polariseur et analyseur croisé. À l'éclairement maximum, elle présente des teintes grises et blanches correspondant à deux différences de marche distinctes. Nous ne pouvons situer ces teintes dans l'échelle de Newton. La différence de marche est-elle très faible ou très forte? Pour résoudre ce problème, introduisons une lame onde dans un sens, puis dans un autre. La teinte extérieure est modifiée, le bord correspond donc à une faible différence de marche. La teinte de la région centrale ne varie jamais, c'est un blanc d'ordre supérieur. Toutes ces remarques doivent nous permettre de déterminer les vibrations lentes NG ou rapides NP, ainsi que les teintes de biréfringence de n'importe quelle lame cristalline. En résumé, une lumière polarisée rectilignement vibre dans un seul plan. Un cristal transmet deux vibrations perpendiculaires l'une à l'autre. Ces vibrations se propagent à des vitesses différentes. Après une lame mince, les vibrations interfèrent. Lorsqu'on les reçoit sur un analyseur, des teintes apparaissent. Celles-ci servent à la détermination de la biréfringence. La rotation d'une lame permet de repérer les vibrations transmises par un cristal. Nous utilisons les lames auxiliaires pour déterminer la direction de la vibration lente NG et celle de la vibration rapide NP des cristaux. Toutes ces déterminations permettent d'identifier les minéraux au microscope polarisant.